Didier Gauthier, je le disais, vous êtes chef d'entreprise donc et représentant du MEDEF. Alors, les entreprises, sur ces questions, elles sont un peu écartelées entre leur bonne volonté, au sens le plus noble du terme, et puis le fait que ça fait encore des contraintes supplémentaires dans un univers qui n'en manque pas. Alors, qu'est-ce que vous pouvez, comment voyez-vous, vous, justement, cette lente progression vers la régulation et la gouvernance environnementale?
Vu par les entreprises, évidemment, c'est une affaire, j'allais dire, un peu compliquée. On est toujours en train de se dire amis, ennemis, mais on a quand même assez globalement pas l'habitude de démissionner et nous essayons de rebondir. Donc on est dans des logiques très, très ouvertes, bien entendu, par rapport à cela. Je voulais souligner que le MEDEF était très présent dans les discussions qui ont eu lieu dans le cadre du Grenelle. Il y a eu de nombreux échanges, nous sommes positionnés de façon des fois peut-être un peu brutale, avec des angles un peu vifs, mais c'est tout simplement parce que entre les bonnes idées brassées et la capacité que nous avons après à les mettre en œuvre, nous souhaitons qu'il y ait une crédibilité la meilleure possible, qui peut être essentiellement des logiques de temps, des logiques de bonne prise en compte de l'international. Et là, je voulais dire tout de go que dans un texte récent qui concerne, je crois, les indicateurs extra-financiers, ce texte a fait allusion directement à la nécessité de prendre en compte le contexte international dans ce qui nous serait imposé. Donc vous voyez, ceci nous va très très bien. J'entendais avec intérêt les propos qui étaient tenus sur le protocole de Kyoto. En 97, j'étais à Kyoto. J'ai bien vu que les difficultés qu'il y avait avec les uns les autres, j'ai observé que nous rentrions dans une dynamique qui était une dynamique qui mettait des instruments financiers au milieu des problèmes d'environnement et qu'il fallait donc qu'à cet égard les entreprises dressent l'oreille et inscrivent ça d'une façon peut-être plus approfondie dans le business, de façon à, comme je disais tout à l'heure, conjuguer peut-être difficultés, opportunités et regarder ça d'une façon sans doute différente. Lorsque nous parlons de la gouvernance environnementale, Je dirige directement deux sociétés, je dirige indirectement en conseiller de président deux autres sociétés. Nous sommes finalement sur la gouvernance d'une façon générale. Je n'ai pas une gouvernance pour l'environnement, je n'ai pas une gouvernance pour le droit des affaires. J'observe que nous sommes, somme toute, dans une logique qui vous apparaîtra bébête, mais tout simplement de la construction de nos décisions. Lorsque l'on construit nos décisions, nous devons de plus en plus nous inscrire dans des logiques transversales, nous devons de plus en plus sentir l'air à l'extérieur de nos entreprises. Ce que nous essayons de faire, c'est quelque chose d'absolument indispensable, et ceci se fait sous le sceau de ce qui était évoqué tout à l'heure en termes de nécessité d'être à l'écoute de l'ensemble des parties prenantes, de façon à ce que les décisions construites soient des décisions qui prennent compte au mieux des intérêts de l'ensemble des parties. Nous ne perdons jamais de vue que si nous n'ayons pas d'argent, ceci ne dure pas longtemps, mais nous ne perdons pas de vue non plus que des externalités d'aujourd'hui peuvent être des coûts donc à supporter directement demain, et donc on essaie de s'inscrire dans des logiques moyen-long terme, au-delà des nécessités de court terme auxquelles nous sommes confrontés pour des problèmes qui ne vous échappent pas, la bourse, etc. Mais franchement, force est de constater qu'à la fin du 19e, au début du 20e, l'épaisseur des fumées faisait qu'on était sûr d'avoir du lard dans la soupe, et force est de constater que par rapport à ça aujourd'hui, on veut tout sauf des fumées. Donc regardez le chemin qui a été fait pour passer du traitement des fumées aux technologies propres, etc., est un chemin qui a demandé pratiquement une centaine d'années, et maintenant on nous demande donc d'arriver sur des méthodes managériales totalement nouvelles, beaucoup plus participative. Taylor est très très loin derrière. On nous demande, et nous relevons le défi, de nous inscrire dans des logiques de formation de nos collaborateurs beaucoup plus décloisonnées. Il faut que chacun dans son secteur garde sa compétence, car au milieu de ça, il y a de la recherche, il y a du développement, etc. Mais il faut absolument, et nous en sommes convaincus, que de la paillasse au client en allant jusqu'à l'élimination des déchets, nous puissions avoir des chaînes qui ont une solidité plus évidente peut-être que ce que nous avons fait aujourd'hui. Donc on se lance ces défis-là et nous essaierons sur la base de ces défis, qui signifie qu'il faut qu'on s'inscrive dans des logiques participatives éclairées par rapport à l'ensemble de cela, Avec une nécessité de repères, parce que nous n'avançons pas sans un minimum d'indicateurs, nous n'avançons pas sans un minimum de tableaux de bord, donc à l'heure de ces indicateurs, à l'heure de ces tableaux de bord. Et nous sommes, si nous sommes dans les logiques grands groupes, j'ai été chargé pendant 12 ans de la direction environnement et hygiène sécurité du groupe Saint-Gobain au niveau mondial, il faut trouver des indicateurs que l'on discute ensemble et sur lesquels on se retrouve les uns les autres. Il faut bien sûr les brasser au regard de ce que le monde attend de nous. Et puis à partir de cela, il faut que nous avancions. Nous savons bien que nous n'avancerons pas de la même vitesse d'un bout à l'autre du monde. Nous savons bien que les choses sont difficiles. Mais nous sommes dans cet état d'esprit car nous pensons derrière ça que la France, qui bénéficie d'un terreau quand même assez particulier, façonné par des décennies de réglementation que l'on trouve parfois un peu pesante, que l'on trouve trop changeante, etc. Mais ça nous positionne quand même au niveau mondial avec déjà une culture qui nous permet d'avoir des discussions, somme toute, d'une relative objectivité entre les uns et les autres. Donc c'est ça ce que nous voulons aussi pousser. Mais il ne faut surtout pas perdre de vue que le monde est d'une très grande complexité. Il ne faut pas perdre de vue que si les exigences sont extrêmes, on va aller travailler à l'autre bout du monde. Et on voit bien les conséquences que ça va avoir sur la Chine, même s'il y a des choses extraordinaires en Chine. Et donc tout ça, il faut le peser. Il ne faut pas que... notre souci de voir, on parlait à un moment de gazelle verte ou pas de gazelle verte, bref, d'entreprises qui par rapport à ça s'inscrivent dans des logiques qui leur permettent, des logiques analyse de cycle de vie. Vous savez, finalement, l'esprit de tout ça, c'est la logique analyse de cycle de vie, c'est on réapprend la subsidiarité. Hein, la subsidiarité, c'est faire son boulot le mieux possible dans son périmètre, mais quand même comprendre qu'à un moment, ça peut gêner le voisin, et puis par ricochet, avec la meilleure des intentions, on peut être complètement... en train de démolir quelque chose à l'autre bout du monde. C'est tout ça que nous essayons de voir, c'est tout ça que nous essayons de rendre compatible avec notre nécessaire compétitivité. Et donc c'est tout cela qui, sous l'aune de la 26000, puisque j'ai eu le plaisir de présider l'ISO 26000 à la fois en France et à l'international, et arrivant juste après Copenhague, climat à Copenhague 26000, on s'était dit, on nous a savonné la planche, mais pas du tout. On a réussi à arriver au terme des débats, 99 pays, et la dite norme a été approuvée. Ce qui veut dire d'ailleurs que nous sommes globalement d'accord sur les principes, mais que quand il faut mettre la main au portefeuille ou quand il faut agir, c'est un peu plus difficile. Mais là, ça veut dire aussi que l'industriel ne travaillera pas tout seul. Les industriels travailleront grâce donc à des décisions au niveau supranational qui nous permettront d'avoir des lignes rouges à l'intérieur desquelles nous serons avancés, car nous sommes des gens qui savons nous lancer des défis, savons nous positionner par rapport à des objectifs, mais savons aussi que si on ne gagne pas de fric, ça ne dure pas longtemps.
Voilà, merci. Très rapidement résumé. Merci Didier Gauthier. On arrive presque au terme de notre tour de table. On va prendre les questions vraiment dans quelques instants. Mais auparavant, on va écouter justement pour conclure Alain Ayong-Lecama, donc, qui est professeur de sciences économiques à Lille. Alain, qu'est-ce que vous retirez de ce tour de table? Bon, évidemment, on a été vite, mais en même temps, on a abordé pas mal d'aspects de cette question de la gouvernance environnementale.
Mais ce que je retire, c'est qu'effectivement, comme vous avez tous remarqué, il y a un consensus sur le constat, c'est-à-dire que les choses ne sont pas simples. On a, comme l'a dit Kathleen, on a des biens publics dits mondiaux, comme disent les économistes, qui génèrent des situations dont la gestion va au-delà des compétences nationales. Et comme ça va au-delà des compétences nationales, bien entendu, ça pose des questions nouvelles et des questions complexes. Donc sur ce constat, je crois que tous les intervenants sont assez d'accord. Et évidemment, les intervenants sont aussi d'accord sur le fait que, comme on a ces biens particuliers, les réponses exigent un certain engagement politique, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Il faut un engagement politique fort pour arriver à des solutions conséquentes. Et les solutions en question, évidemment, ce sont des solutions qui ont été dites aussi, qui sont des solutions qui peuvent être d'abord institutionnelles, même si on a regretté qu'il n'y avait pas une institution environnementale mondiale, c'est-à-dire qu'on rêve toujours de l'Organisation mondiale de l'environnement, qui évidemment est la seule qui, de notre point de vue, est susceptible de régler un certain nombre de divergences en matière d'environnement au niveau international. Pour ceux qui ne le savent pas, ces divergences-là sont aujourd'hui réglées dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Donc ça pose quand même un certain nombre de questions. Et donc il y a des réponses institutionnelles. Je crois que Mme Pappalardo l'a bien montré, qu'au niveau national, on s'est relativement bien organisé avec le Grenelle. Et bien avant le Grenelle, il y a eu un certain nombre d'institutions qui ont été mises en œuvre. Donc la première réponse est l'institutionnelle. La seconde réponse, évidemment, c'est celle que connaissent bien les économistes, c'est des réponses en termes de régulation, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'amener les comportements vers quelque chose de plus vertueux en matière d'environnement. Pour le faire, les économistes savent qu'il y a ce qu'on appelle les instruments qui modifient le signal prix, ça a été dit, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'efficacité économique. Même si ces instruments-là de régulation économique, comme l'a rappelé si bien Kathleen, peuvent générer un certain nombre d'effets redistributifs, c'est-à-dire des effets qui font qu'ils peuvent, par leur efficacité, être peut-être inégalitaires en matière sociale ou ainsi de suite. Donc ça doit être accompagné par des mesures complémentaires, des mesures de compensation. Évidemment, quand on a ces réponses, elles ont nécessairement un impact sur les acteurs privés en particulier, les entreprises notamment, et les entreprises notamment, évidemment, sur les entreprises, on l'a vu, ça a été très bien dit, qu'évidemment, la gouvernance environnementale n'a pas pour objet de freiner la compétitivité des entreprises nationales, ça va de soi, mais évidemment, il y a aussi les autres acteurs privés qui sont notamment les consommateurs et les citoyens que nous sommes, où je pense qu'un point sur lequel peut-être je voudrais vous amener, c'est que toutes ces modifications, toutes ces transformations de la gouvernance internationale vont avoir une incidence sur les types de métiers de demain, ça va avoir une incidence sur le type d'entreprise de demain, et donc nécessairement ça va se traduire par des mutations, des transformations en termes de nécessité de qualification. Donc il faudrait anticiper les types de métiers de demain, il faudrait anticiper les types de formations qui seront utiles pour satisfaire ces nouvelles exigences-là, et donc le maître mot à mon avis à ce stade, c'est l'anticipation, anticipation en termes de maintenir une certaine stimulation de la compétitivité des entreprises et surtout anticipation sur toutes les mutations que cette gouvernance internationale va créer, va générer du point de vue social et notamment sur les métiers et sur les types d'emplois demain. Voilà.
Merci Alain pour cette brillante synthèse. On va prendre les questions dans un instant. Je voudrais juste en poser une à Michel Papalardo pour lancer le débat. Au fond, justement, quand on regarde dans l'éventail des dispositifs qui existent, pas en France seulement, mais au plan international, est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent spécialement intéressantes et desquelles on aurait intérêt à s'inspirer, soit dans les modalités des instruments de régulation, soit dans les institutions, effectivement, comme Alain le disait, des choses qui, justement, gagneraient à être développées. Et de ce point de vue, l'Europe est-elle, selon vous, comment est-elle placée dans cette course à l'innovation en matière de gouvernance ?
Alors, il y a deux choses. En matière de gouvernance, et ce qu'il vient de dire, où je trouve qu'on est passé au-delà de la gouvernance et où on est sur des choses très concrètes, des choses qu'il faut faire pour être en phase avec ce qui est en train de se développer. En matière de gouvernance, moi, je pense que l'Europe, la France en particulier, mais l'Europe plus globalement, elle est très innovante. Elle a apporté beaucoup de choses sur tous ces thèmes, que ce soit sur le climat, que ce soit aujourd'hui sur la biodiversité, sur l'idée du GIEC de la biodiversité, etc. On a, j'allais dire pas à rougir, mais c'est même pas ça. C'est-à-dire, on entraîne en fait, on fait des propositions. On a un peu de mal à convaincre au début, et puis finalement, progressivement, on y arrive. Donc je pense qu'il faut bien sûr s'intéresser à ce qui se passe ailleurs. Il faut faire en sorte que l'ensemble des autres pays, et notamment les grands pays émergents, et notamment la Chine, comprennent ce qu'on essaye de proposer et comprennent l'intérêt qu'ils ont à utiliser ce type d'outils, c'est clair. Mais voilà, je pense que l'innovation, elle vient quand même beaucoup de l'Europe, et la France, dans cette affaire, est effectivement très créative. Pour rebondir, par contre, sur ce que disait Alain, sur en fait ce que je mets derrière ces mots, c'est comment on s'adapte et comment on anticipe, parce que s'adapter c'est déjà un peu en retrait, comment on doit anticiper pour être au top sur ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que j'appelle en tout cas l'économie verte, c'est-à-dire une économie décarbonée, ça c'est la lutte contre le changement climatique, mais aussi, et ça j'y tiens beaucoup, sobre en ressources naturelles. Ce n'est pas exactement la même chose. Bien sûr, sobre en énergie fossile, mais aussi sobre en eau, sobre en utilisation de la biodiversité, sobre en matières premières, pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons économiques. Hein, c'est parce que, en fait, à 9 milliards d'habitants souhaitant vivre comme nous, aujourd'hui, ça n'est pas possible avec le type de consommation de ressources que nous avons, avec nos modes de consommation et nos modes de production. Donc il faut effectivement anticiper pour se retrouver dans des systèmes qui seront beaucoup plus sobres en ressources naturelles et en carbone. Et ça, c'est très compétitif. Si on ne le fait pas, on ne sera pas compétitif, on sera mort d'ailleurs. Donc il faut absolument le faire. Et pour ça, il y a la dimension formation. Il y a besoin de transformer notre économie. Un certain nombre d'activités vont dépérir, d'autres vont se développer. Il faut bien sûr que notre système de formation s'adapte. Donc on essaye d'y travailler. Quand je dis ça, c'est pas juste de la vue à long terme. Non, on essaye de travailler là-dessus. D'accord. Aujourd'hui, on est en train de regarder comment, de manière systématique, par exemple, tous les diplômes doivent être soit adaptés, soit complètement revus, soit nécessité d'avoir de diplômes nouveaux pour que nos jeunes, mais aussi dans la formation continue, on soit en phase avec ces évolutions. Ça veut dire développer l'éco-conception, ça veut dire développer l'économie circulaire, ça veut dire des changements extrêmement fondamentaux, bien au-delà de ces problématiques de gouvernance. Pour revenir à ce que je disais, l'intérêt du travail qu'on a fait, je pense, avec le Grenelle et qu'on doit continuer à faire, c'est que tout ça, ça ne se fait que si nos concitoyens comprennent. Ils participent à cette vision, comprennent pourquoi tous ces changements doivent se faire et sont demandeurs d'y participer. Et c'est, je pense, le gros intérêt du Grenelle que de nous avoir mis dans le vent, on va dire.
Très bien. Peut-être y a-t-il des questions. Oui, plein de questions, plein de bras se lèvent. Monsieur, avec une veste verte, si vous pouvez vous présenter et formuler une question brève, parce que vraiment, je vois une dizaine de mains qui se lèvent. Merci.
Bonjour, Bernard Léon, AFIT, Association française des ingénieurs et techniciens de l'environnement. J'aurais deux questions à poser, très rapidement. L'une à l'AMF. Il nous a expliqué son rôle dans la surveillance des outils financiers socialement responsables. Et j'avais une question à lui poser. Les entreprises publient aussi des rapports qui, en fonction de la loi NRE, doivent signaler environnemental et développement durable. Qu'en est-il de la surveillance à la fois de la véracité qui intéresse bien entendu le public? La deuxième question s'adresse à M. Chiriqui. Le CAE a organisé il y a peu de temps un débat à Paris autour du livre de Dominique Bourg. Et je voulais poser la question qu'il nous rende compte très rapidement de ce qui s'y était dit, car était proposé ce qui est pour moi aussi un outil de gouvernance environnementale, de nouvelles innovations institutionnelles possibles afin de prendre en compte les générations futures dans la gouvernance politique, économique et d'entreprise. Merci.
Merci monsieur. Deux questions. Donc une d'abord pour l'AMF. Donc au fond, est-ce qu'on contrôle vraiment la véracité des déclarations des entreprises lorsque celles-ci satisfont aux obligations de la loi NRE? Mais au fond, est-ce qu'on va voir? Première question. Deuxième question, les innovations institutionnelles. On vous écoute. Oui. Réponse brève, s'il vous plaît, façon à ce qu'on puisse.
Excellente question qui est au cœur de l'actualité, et surtout que c'est une actualité qui est mouvante, comme on l'a vu avec les différents instruments, le Grenelle 2, etc. Alors, pour répondre à votre question, premièrement, oui, en partie, ce travail est fait pour une bonne raison, c'est qu'une partie des informations que les entreprises doivent donner en vertu de la loi NRE, par exemple, ou même parfois sur une base plus volontaire, sont des informations, alors, extra-financière en partie, mais qui peuvent avoir des conséquences financières et comptables. Et donc, dès lors que ces informations ou les sujets dont il est question peuvent avoir un impact sur les finances de l'entreprise et sur leur compte, il est très clair que nous sommes compétents et que nous vérifions. Alors, pour donner un exemple, c'est typiquement le risque environnemental qu'on retrouve dans la partie risque des documents de référence des entreprises cotées. Ça, il est très clair que non seulement nous sommes compétents, non seulement nous vérifions, mais nous émettons même assez régulièrement des recommandations pour expliquer aux entreprises comment il peut être utile de présenter l'information en la matière de façon à ce qu'elle soit, bon, certes synthétique et lisible, mais aussi pertinente au regard des obligations qu'elles ont. Alors après, la question qui se pose, c'est au regard de l'ensemble des informations qui sont demandées, quelles sont les informations qui sont strictement extra-financières, sans conséquences financières ou comptables, quelles sont celles qui sont quelque part entre les deux, et en tout état de cause, de toute façon, sachant qu'il s'agit d'informations qui est fournie au public, quel est le rôle de l'AMF là-dedans? Alors, nous avons à l'AMF une tendance à considérer qu'il faut regarder ça de façon relativement large, puisque de plus en plus, les informations sur le développement durable, mais de façon général sur tout ce qui est social, environnemental, etc., en matière de gouvernance d'entreprise également, pose de telles conséquences réputationnelles, par exemple pour les entreprises, qu'il y aura une évolution naturelle vers une surveillance renforcée de l'AMF sur ces sujets. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, pour conclure sur ce point, nous allons précisément émettre un rapport qui sera publié vraiment maintenant dans les prochains jours sur la question, dans lequel nous ferons un peu un bilan de ce que les entreprises font en la matière, dans lequel en quelque sorte nous consulterons pour savoir un peu le sentiment des parties tierces, pour savoir un petit peu ce qu'elles pensent en termes de rôle de l'AMF en la matière, et dans lequel nous émettrons également quelques recommandations sur des sujets qui nous paraissent assez importants. J'en cite un et je m'arrête là. C'est par exemple le rôle des agences de notation extra-financières qui aujourd'hui, contrairement aux agences financières, ne sont pas régulées.
Bien sûr. Merci Edouard Villefond. Réponse brève également s'il vous plaît de Vincent Schrecki sur a-t-on besoin de nouveautés institutionnelles, hein?
Alors, tout à fait. D'abord, merci d'avoir rappelé ce débat qui a été organisé, non pas d'ailleurs par le CE, mais par le Centre d'analyse stratégique que je dirige. Mais il y a beaucoup de confusion, donc ça me permet de le dire. Ouais. Mais effectivement, on a organisé ce débat autour du livre de Dominique Bourg et Kerry Whiteside, Vers une démocratie écologique. Alors, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais puisque vous en avez parlé, monsieur, je vous le recommande vraiment. C'est un livre passionnant qui explique le défi écologique auquel on est confronté et qui imagine quelles innovations institutionnelles pourraient permettre d'y répondre, toujours à partir du même constat. C'est-à-dire ce sont des défis qui sont d'une nature différente des autres défis qui se posent aux décideurs publics, parce que c'est du long terme, parce qu'il y a des aspects scientifiques qui sont complexes, qui sont difficiles à prendre en compte. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de plus? Alors, il imagine plusieurs choses. Il imagine une sorte de super Sénat environnemental qui mène au continu cette évaluation environnementale pour tous les projets de loi. Il imagine des panels d'experts qui puissent être pris dans la société civile, formés pour avoir un avis qui soit mis en parallèle de celui des responsables politiques. Je trouve cette approche extrêmement séduisante, c'est pour ça que je vous invite à lire le livre. En même temps, je pense que c'est ce que je lui ai dit au cours du débat qu'on a eu d'ailleurs. C'est un peu difficile d'imaginer qu'on va totalement remettre en cause toutes les bases de la démocratie représentative simplement au nom du défi écologique, quelle que soit son importance. Mais je pense que d'abord, il y a déjà eu beaucoup de faits. Il y a eu d'abord la création du MEDEM et la création du CGDD, mais je ne veux pas en parler à la place de Michel Papalardo. Il y a eu la réforme récente qu'elle a mentionnée du CESE. Le Conseil économique et social est devenu le Conseil économique, social et environnemental avec un grand nombre de représentants du monde écologique. Et je pense qu'effectivement, il faudra aller plus loin, peut-être pas pour remettre en cause la totalité de nos institutions démocratiques, mais en tout cas pour mieux prendre en compte des enjeux de long terme dans la décision publique. Et de ce point de vue-là, c'est tellement difficile que je pense qu'il y a encore du travail et c'est encore un sujet qui nous occupera pendant un moment.
Merci Vincent. Lucien Chabasson voulait ajouter un petit mot sur cette question. Un mot bref, s'il vous plaît. Oui.
Ce livre part de l'idée que nos démocraties seraient affectées de court-termisme et serait hors d'état de prendre en compte des enjeux de long terme.
On le voit quand même, ça, dans l'actualité.
Moi, je le conteste radicalement. Je le conteste radicalement. D'abord, nos politiques d'environnement ne sont ni plus ni moins en échec que bien d'autres politiques publiques. Et il y a un bilan. Et deuxièmement, les questions de long terme n'affectent pas seulement les questions d'environnement, mais beaucoup de nos politiques publiques, politique urbaine, politique éducation. Ce qu'on fait aujourd'hui déroulera des effets pendant 30, 40, 50 ans, politique scientifique aussi. Et enfin, nos démocraties ont été parfaitement capables de prendre en jeu des enjeux de long terme. Prenez par exemple la politique forestière en France. Elle est suivie depuis la 4e République en a jeté les bases, ça a été poursuivi. On a 5 millions d'hectares de plus de forêt par rapport à 1945. Il y a plein de sujets comme cela. On a créé les agences de l'eau avec des succès et des échecs. Il n'en reste pas moins qu'on s'est donné les moyens, dans le cadre de nos démocraties, et sans mettre en échec la démocratie représentative, de traiter ces questions.
Ces
alors, je veux dire par là que ce n'est pas parce que nos démocraties sont confrontées à cette question de la succession, des élections, etc., qu'elles ne doivent pas s'y confronter. Et ce n'est certainement pas par des choses qui s'apparenteraient à des despotismes éclairés, je dirais. Je ne veux pas parler de l'AMF ici, c'est-à-dire des autorités indépendantes, mais enfin il y a un peu de ça. Il y a l'idée de sortir, disons, des décisions du champ de la démocratie représentative.
Ou du champ du politique en tout cas.
Ou du champ du politique, je pense, c'est extrêmement dangereux et qu'il faut au contraire investir sur la démocratie.
Voilà. Merci. Alors, une question. Oui, monsieur, merci de vous présenter. Question brève. Puis après, on va changer de coin. Monsieur tout au fond et monsieur au cinquième rang ensuite.
Oui, donc je m'appelle Rachid Gourine.
On viendra à vous tout à l'heure.
Je m'appelle Rachid Gourine, je suis technicien dans l'industrie. J'aimerais vous poser deux petites questions. Pensez-vous que le souci écologique actuel n'a fait qu'occuper le terrain laissé par un système capitaliste en manque d'imagination? Un exemple: la chute des places boursières en septembre-octobre 2008, toutes les radios de toutes les visions du monde ne nous parlaient comment faire pour se relever. Et aucun souci sur le débat écologique. La seconde question, pensez-vous que le combat gigantesque, l'affrontement économique entre Américains et Chinois à l'heure actuelle, pensez-vous qu'à la tête... Pensez-vous que les élites chinoises ou américaines ont le souci écologique?
Merci, monsieur. Alors, vos questions n'ont pas été adressées, questions pas faciles, parce qu'elles sont assez vastes. Au fond, la première, c'est la superposition du plan économie et montée des préoccupations environnementales au moment de la crise. Moi, à l'inverse, ce qui m'a frappé, d'ailleurs, pour rebondir sur votre propos, monsieur, c'est que, justement, à l'occasion de la crise économique et financière, le discours sur la croissance verte a été beaucoup plus puissant, beaucoup plus présent, y compris, d'ailleurs, dans des secteurs qui, jusqu'ici, étaient réfractaires, comme l'automobile. Mais je ne sais pas. Pardon ? Ah, vous disiez c'est pour faire diversion. Bon, quel est le sentiment de nos panélistes là-dessus ? Michel, peut-être vous voulez dire quelques mots ?
Oui, donc je ne pense pas que ce soit pour faire diversion. Je pense qu'effectivement, la crise a remis un souci de court terme, parce que c'est vrai que pendant un moment, on est resté sur le sujet, la crise tout de suite, aujourd'hui, ça s'effondre, il faut réagir, et on était sur du très court terme. Ce que je pense, c'est que malgré cet impact très fort à un moment de cet aspect très conjoncturel, très court-termiste, on a gardé le sujet écologie et cette démarche de développement durable qui aurait pu totalement disparaître. Clairement, c'était une inquiétude que nous avions, nous, hein, quand on a vu arriver la crise très, très violente, bancaire, économique, financière, etc. Et c'était d'ailleurs une question qu'on nous posait. C'est, vous allez voir, votre développement durable, on n'en parlera plus. Et puis, on est là et on en parle. Et on n'est pas sorti de la crise, parce que justement, je pense qu'elle est beaucoup plus structurelle que conjoncturelle. Et justement, nos thèmes de l'environnement et de l'environnement au sein des autres dimensions, ce que je mets derrière développement durable pour faire vite, c'est resté un sujet extrêmement fort. C'est un sujet extrêmement fort dans les entreprises. On les voit tous les jours. Elles continuent de travailler sur ce sujet. Alors, certaines sont plus ou moins à l'ante, hein, c'est clair, mais le sujet existe. Vous voyez l'AMF s'intéresser au sujet. Pour moi, c'est un vrai marqueur du fait que le sujet a pris une dimension économique et financière forte, ce qui fait qu'il existe complètement aujourd'hui dans le discours politique et économique. Donc voilà, je ne suis pas inquiète. Au contraire, maintenant, je suis rassurée. Le sujet, il est structurant. Il a été pris comme structurant. Il est compris comme structurant. J'en profite pour dire un mot sur votre question sur est-ce que ce sujet est aussi structurant, si je résume, dans les élites américaines ou dans les élites chinoises. Bah, aux États-Unis, il y a des sujets un peu complexes. Il y a des d'abord, il y a des États qui sont très mobilisés sur ce sujet. Il y a aussi des entreprises, et c'est toujours très intéressant de voir que les grandes entreprises américaines, elles font très clairement un lobbying fort pour que les États-Unis jouent leur rôle dans ce domaine de l'environnement. Ils ont plus de problèmes avec leurs citoyens au sens très large, et c'est pour ça que je pense que c'est important que le travail qu'on a fait, nous, avec la société française, parce qu'on ne passe pas sans que les citoyens suivent. Et pour les Chinois, alors je suis absolument convaincue, et on a des tas de preuves qu'aujourd'hui, cette dimension environnementale, c'est une dimension à part entière de leur politique économique et de leur politique, même géopolitique. Hein, c'est un élément fort. Alors, ça ne se voit pas forcément de la même manière que chez nous. C'est un élément dans leur manière de se développer, et ils sont absolument convaincus qu'à la fois pour des raisons économiques chez eux et des raisons géopolitiques extérieures, ils ont besoin de jouer un rôle important dans tous ces domaines qui nous intéressent aujourd'hui.
Très bien. Monsieur Gauthier voulait ajouter quelque chose.
Oui. Un petit mot supplémentaire. Je ne ferai pas le tour du monde, mais c'est vrai que les Chinois, moi je les ai confrontés sur la 26000 et somme toute de la gouvernance environnementale à la 26000, il n'y a qu'un pas. Une équipe très solide et trop, très proche des autorités décisionnelles a fait le tour des ambassades du monde, au moins des 90 ou 99 pays qui votaient à l'ISO 26000. Ils sont venus nous voir et nous avons eu des discussions avec eux. Ils nous ont rappelé qu'il ne fallait pas leur donner de leçons, mais ça nous le savons bien. Ils nous ont surtout rappelé que s'ils souhaitaient aller à leur vitesse, c'est parce qu'ils avaient dans les campagnes un nombre considérable de Chinois, évidemment, qui évidemment attirés par la lumière de Shanghai, Pékin, etc., risquaient de se précipiter un peu vite, et ils ont déjà de grosses difficultés.
15 millions par an, hein, l'exode rural en Chine.
Donc la Chine, et la Chine, sur cette discussion-là, sur la 26000, nous sommes retrouvés fin août, et le vote a eu lieu après, nous a tenu des propos qui ont été strictement tenus. Ces gens-là voulaient s'opposer donc à cette fameuse 26000. Nous avons eu des éléments de compromis et ils ont dit sur ces bases-là, nous voterons oui. Et ils ont voté oui. Donc moi j'ai beaucoup de respect pour la Chine. Ils ont d'énormes problèmes, mais qui n'en a pas. C'est comme ça. Autrement, le 15 septembre 2008, c'est vrai qu'on est tous tombés de l'échelle. C'est vrai que nous avons tous réduit la voilure. C'est vrai que l'on a tous remis en question les investissements, y compris le dépoussiéreur qu'on devait mettre absolument parce que tous les voisins, etc. C'est vrai que l'on a été pleuré auprès des uns des autres en disant, écoutez, différents, mais je n'ai pas eu connaissance de directeur environnement qui ait été à cette occasion-là remercié, et donc je crois que la traînée est suffisamment profonde maintenant pour que de nos entreprises, ce sujet-là soit un sujet absolument indissociable des décisions appelées à être prises. Et ça me paraît tout à fait fondamental. Ce n'est pas des empattes sur des jambes de bois, ceux qui font ça maintenant, ce sont vraiment des gens qui percolent dans l'ensemble des fonctions, et donc ils ont leur place au même titre que le directeur technique, etc. Donc je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut que l'on garde, car comme je le disais tout à l'heure, notre compétitivité à nous, c'est pas les machines. Les machines, on peut acheter n'importe quelle machine à n'importe quel coin du monde, ça peut être la même, c'est les hommes. Donc il faut que nous réussissions à capitaliser, je parle des pays de l'Ouest d'une façon générale, pays dits développés, il faut que l'on capitalise sur les hommes, il faut qu'on réussisse sans doute à les faire travailler autrement, parce que c'est ça qui nous permettront sans doute de faire le nécessaire pour que les nécessaires quand même, remise à niveau des uns et des autres, se fasse avec une relative souplesse.
Merci à vous. Alors, on prend la question du fond. Monsieur.
Oui, bonjour. François Paymien, je travaille dans une collectivité locale, pas loin d'ici. Et je voulais poser la question de la gouvernance économique, gouvernance environnementale, excusez-moi, locale. Parce qu'une fois qu'on a fait tous les textes de Grenelle, il faut les appliquer, et on les applique au niveau local. Alors, au niveau local, on se retrouve aujourd'hui avec, si vous me permettez l'expression, une brouette de textes. Schéma, plein de choses à faire, plein d'experts à écouter, et on en est ravis, je veux dire, on ne remet pas en cause l'intérêt de ça, mais on a un schéma pour les trams bleus, un schéma pour les trams vertes, on a le nouveau SCOT, on a les zones humides, on a, et j'en passe, moi j'ai encore la chance de ne pas avoir un dispositif pour les ours et pour les loups, j'ai juste à sauvegarder la cistude d'Europe, que chacun sait, est une tortue rare européenne. Alors, tout ça pour dire que, ensuite, la question que j'aurais posée, c'est effectivement comment on fait, à la fois pour respecter ce que Mme Papalardo a rappelé, la règle de la gouvernance à 5, parce que ça pose un problème de représentativité, c'est-à-dire que sur mon territoire d'une communauté d'agglomération, je n'ai pas de représentant du MEDEF, je n'ai pas de représentant de la CGPME, citons-la aussi, pas de représentant forcément de toutes les associations, pas forcément de représentant de syndicats à ce niveau-là de territoire. Donc, comment on fait? Et puis, deuxièmement, on est évidemment dans une situation actuellement d'apprentissage, on en a bien conscience, mais donc comment on met tout ça en place? Ça fait des études, ça fait des réflexions, ça fait de la concertation, toutes choses tout à fait positives, mais pendant ce temps-là, en ce moment, on n'avance pas, on n'investit pas pour respecter les projets, etc. Et je ne suis pas sûr qu'à la sortie, on ait une vraie gouvernance, mais c'est plutôt un débat entre le sous-préfet et les collectivités. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément ce qui avait été vu, même si je n'oublie pas le département et la région qui s'associent. Juste dernier point pour l'anecdote, j'aurais aussi une solution pour me débrouiller avec les plans climat, parce que j'ai le plan climat de la commune, le plan climat de mon intercommunalité, le plan climat du département, le plan climat de la région, mais qui, heureusement, paraît-il, est cohérent avec le plan climat de l'État en région.
Ah, bah vous nous rassurez. Donc merci. Merci, monsieur. Bon, question évidemment très riche et pas simple. Michel Papalardo, vous avez été indirectement sollicité. Au fond, cet afflux de brouettes, hein, je crois que c'est le mot que vous avez utilisé, de textes, de succession de réglementations. Bon, c'est vrai que c'est quand même un souci, pas spécialement pour l'environnement. Hein, c'est globalement la production législative et réglementaire de la fonction publique dans tous les pays du monde, mais probablement encore davantage en France, atteint un niveau de surchauffe préoccupant.
Je suis bien d'accord. Nous, il faut qu'on fasse les décrets. Hein. On en a une brouette aussi, là. Un tombereau, même. Non, je partage aussi votre inquiétude. Et tous les jours, nous posons les questions que vous vous posez. Pas comment on va faire, mais comment on fait pour que ça se passe bien. En évitant, parce que je suis, même en souriant, je suis bien consciente du fait que tout ça, ça ne doit pas ralentir. C'est pas parce qu'on n'a pas encore tous nos plans, nos schémas, et tout ce qui est souhaitable pour qu'on fasse les choses de manière harmonieuse et bien organisée avant qu'on ait tout ça, et ça va prendre un peu de temps. Il ne faut certainement pas arrêter de travailler et il ne faut pas arrêter de construire ce qu'il faut construire, de protéger ce qu'il faut protéger. Et je sais très bien d'ailleurs que c'est ce qui se passe, heureusement, parce que les uns et les autres sont de bonne volonté. Alors, ce qu'on s'efforce de faire à notre niveau, c'est d'essayer de faire que d'abord les textes sortent vite, parce qu'une partie des choses qui vous posent problème, c'est parce qu'on a des textes de loi et qu'on n'a pas les décrets. Les lois viennent d'être votées, les décrets, comme je le disais d'ailleurs tout à l'heure, si on veut les concerter, ça prend forcément un petit peu plus de temps que si on les fait tout seul dans notre bureau. Donc c'est l'avantage et l'inconvénient de la gouvernance à 5 et de la concertation. Mais aujourd'hui, on a mis vraiment une grande priorité sur l'organisation et sur les sorties de ces décrets, donc notamment sur les plans climat, notamment sur un certain nombre des textes que vous citez, on va vous sortir les décrets. Ça ne va pas résoudre complètement l'autre sujet dont vous avez parlé, qui est et où sont les représentants de la gouvernance à 5 sur mon territoire. Je ne sais pas où est votre territoire, mais je pense que la question que vous vous posez, on se la pose à beaucoup d'autres endroits. Alors déjà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on est en train, nous aussi, de travailler là aussi très vite sur le décret de représentativité et d'agrément des associations dans le domaine qui nous intéresse, enfin en tout cas sur lequel nous on peut vraiment faire quelque chose, c'est-à-dire quelles sont les ONG représentatives pour faire un des 5 piliers. Là, les textes sont en train d'être finalisés, je pense qu'ils vont sortir très vite, ce qui va permettre à tous les acteurs de savoir comment se positionner et comment participer aux travaux que vous avez à faire sur votre territoire comme sur tous les territoires. Donc ça, c'est en train de se mettre en place et je trouve beaucoup plus vite que ce que je ne craignais, mais même si ça vous paraît encore un peu trop lent. Bon, après, bon, est-ce qu'il y a des représentants du MEDEF? Certainement pas des représentants de tous les syndicats. Bon, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut bien sûr adapter cette gouvernance à 5 qui a été faite de manière très systématique et très organisée pour le Grenelle au niveau national. Et ensuite, à chacun des niveaux, il faut l'adapter. On n'a pas forcément besoin d'avoir non plus les cinq composantes dans tout ce qu'on fait sur tous les sujets. C'est d'abord, on n'y arrivera pas, et ensuite, ça n'est pas nécessaire. Et d'ailleurs, les uns et les autres ne viennent pas quand ils ne se sentent pas concernés. Donc voilà, il faut savoir peser le pour et le contre et puis s'adapter avec les moyens du bord. En étant, en tout cas, je veux vous rassurer sur le fait qu'on est très consciente des inconvénients de la situation actuelle où les choses ne sont pas encore complètement finies.
Merci. Oui, monsieur, voilà, au cinquième rang, là, voilà, je vous avais promis. Et puis on revient à madame derrière et ça sera la dernière question.
Bonjour, donc Mesquita Lucas, étudiant L3 sciences éco-gestion. Donc avant de poser ma question aux intervenants, je voudrais faire un tout petit constat chiffré pour que l'Assemblée comprenne bien la puissance des mesures à prendre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 90 et 2050, la population des pays en développement va être multipliée par deux, passant de 4 milliards d'habitants à 8 milliards d'habitants. Et sur cette même date de 2050, la diminution des émissions de CO2 doit atteindre 50%, comme l'a précisé le GIEC. Et cette obtention sera possible par une réduction de 80% des émissions des pays développés, permettant ainsi aux pays au développement d'augmenter leurs émissions de 3% sur cette même période. Mais à cause du dynamisme démographique que je vous ai présenté, donc la multiplication de la population par deux, en réalité, les pays en développement devront réduire de 50%, je dis bien 50%, leurs émissions par tête, ce qui est absolument inenvisageable. Par conséquent, n'est-il pas urgent...
Attendez. S'il vous plaît, ne faites pas d'intervention, vous posez une question.
C'est bon, là, j'étais parti à la question.
D'accord.
Donc par conséquent, n'est-il pas urgent, parce que donc 2050 c'est demain, de mettre de côté les querelles existantes et que les pays développés engagent des efforts supplémentaires importants en termes d'efficacité énergétique, au-delà des 80% de réduction, et en termes de nouvelles technologies, en collaboration avec les grands pays émergents que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, etc., pour que ces nouvelles technologies soient transmises aux pays du Sud de façon gratuite ou à bas coût, ce qui semble indispensable pour une transition vers une économie verte qui est vitale pour notre avenir à tous ici présents.
Vous avez une question particulière ?
Bah oui, la question de savoir si les pays développés ne doivent pas encore engager des efforts supplémentaires et partir sur une collaboration sur les nouvelles technologies avec les grands pays émergents.
D'accord. Oui, Vincent, vous voulez répondre ?
Oui, je vais...
Merci, monsieur.
Rapidement, non, mais je pense que vous avez effectivement bien donné les données du problème et aussi une partie de la réponse à la question. C'est très clair que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une sorte d'asymétrie. Quand on regarde, on a l'impression que les efforts sont beaucoup plus sévères pour les économies développées. En réalité, les pays en développement... part d'une situation où évidemment ils émettent moins que les pays en développement parce qu'ils ont un niveau de développement écologique, économique qui est moindre, mais en revanche leur niveau d'émission par unité de production économique est très supérieur. Pour faire 1 euro de production en Chine, vous émettez beaucoup beaucoup plus de CO2 que pour faire 1 euro de production en Europe. Et c'est évidemment là-dessus qu'il faut travailler. C'est-à-dire qu'il faut trouver un chemin de développement pour les pays en développement qui permette qu'au fur et à mesure que leur population augmente et que leur niveau de vie continue à augmenter, parce que ça c'est inévitable, on ne va pas arrêter la progression du niveau de vie chinois, qu'en même temps il y ait suffisamment de progrès technologiques, de progrès à la fois dans les technologies vertes dans tous les sens qu'a évoqué Michel Papardo, c'est-à-dire à la fois des modes de production plus économes en carbone et plus économes en matières fossiles pour permettre leur développement. Mais ça, je pense qu'ils en sont bien conscients. Et d'ailleurs, enfin, derrière, il y a des enjeux qui sont au cœur de la croissance chinoise. Quand on regarde, quand on tire la courbe de la croissance chinoise et qu'on regarde ce qu'ils souhaitent comme production de voitures, par exemple, dans 20 ans, on se rend compte que ça représente plus que la production totale de métal de la planète. Donc, de toute façon, il y a un moment où il faudra trouver une solution, y compris dans l'intérêt des Chinois eux-mêmes, et ils en sont bien conscients. Alors derrière, il y a des aspects technologiques, et c'est le dernier point que vous avez évoqué qui est tout à fait juste, qui est comment est-ce qu'on fait en sorte, pour aboutir à ce résultat, améliorer l'efficacité énergétique, l'efficacité en utilisation de matière des pays en développement, d'avoir le niveau technologique qui est nécessaire. Alors effectivement, derrière, il y a des questions de transfert de technologie, il y a des technologies propres qu'il faut céder. Je l'avais donné cet exemple dans le cas du Japon, qui a un peu ces politiques-là, sachant que c'est évidemment un équilibre délicat, parce que on voit bien que ça, c'est nécessaire, et en même temps, on voit bien qu'on veut aussi mettre en œuvre des politiques industrielles qui fassent que des économies comme les nôtres aient quand même un un dividende de la transition écologique parce qu'on sera capable, et ça peut être un avantage compétitif, de mettre en œuvre ces technologies plus vertes, plus efficaces, ce qui suppose quelque part qu'on ne les cède pas tout de suite en totalité. Mais ça, je pense qu'il y a des solutions à trouver pour que malgré tout le bénéfice de ces technologies s'étende, même si on espère être, nous, pays industrialisés, en pointe dans la production de ces technologies.
Merci. Alors, on va prendre une dernière question, madame, avant de demander une conclusion à nos deux enseignants. Petite conclusion brève de chacun d'entre vous. Merci. Madame, on vous écoute. Question
Bonjour.
Brève,
Donc,
s'il vous plaît.
Enseignante en économie, vous avez beaucoup parlé, et c'est visiblement ce qui se pratique, de la gouvernance internationale environnementale de type multilatéral. C'est-à-dire que ce sont des accords entre pays. Globalement, toute cette gouvernance environnementale s'arrime à une gouvernance économique. Il y a un lien très fort qui est fait entre les deux. Ma question, c'est l'enjeu. Je crois que l'enjeu n'est pas qu'économique, il est tout simplement la paix dans le monde. Conflit sur les ressources stratégiques, c'est l'enjeu possible si on n'arrive pas à gouverner, à réguler la question environnementale. Et donc à ce moment-là, pour faire simple et pour paraphraser certains, et l'ONU dans tout ça.
Merci madame. Alors, question assez vaste aussi. Lucien Chabasson, peut-être quelques éléments de réponse sur au moins sur l'eau, justement, qui est évidemment une ressource stratégique pour laquelle on se bat.
Oui, merci d'avoir fait référence à l'ONU, où j'ai eu l'honneur de servir pendant 10 ans. Je crois que cette question des interfaces entre la paix et l'environnement et les ressources naturelles, c'est une question ambivalente. Vous avez, si on prend le problème de l'eau, des eaux partagées, il y en a beaucoup. 350 bassins humains sont assis sur des eaux transfrontières, utilisent des eaux transfrontières sur 500 ans. On voit tout le potentiel de conflit qu'il y a sur l'eau. Et on voit les tensions sur le Nil actuellement, par exemple. Mais on ne doit pas ignorer l'extraordinaire développement de la coopération internationale sur l'eau, qui est extraordinaire. Hein. On a des accords sur les grands fleuves internationaux en Europe, bien entendu. Mais on a par exemple un accord très intéressant sur le Mékong, dans la péninsule indo-chinoise, et avec des pays qui coopèrent. Et on a aussi des pays qui posent des problèmes sur le Mékong, comme la Chine et la Birmanie, qui veulent équiper des affluents qui sont susceptibles d'abaisser le niveau de l'eau dans le lit majeur. Donc il y a des tensions, mais on en discute. Je veux dire par là qu'il y a une gouvernance multilatérale de cette question, par exemple, sous les auspices des Nations Unies. Même chose pour les grands lacs internationaux. Les conflits potentiels peuvent s'y exprimer, mais moi je note qu'on fait beaucoup plus de coopération que de conflits armés sur les questions de l'eau à l'heure actuelle. Et ça, les Nations Unies sont pour quelque chose. Voilà.
Merci. On arrive vraiment, vraiment au terme de notre séance. Il nous reste 3 minutes. Donc on va vous demander 2 mots à chacun, vraiment Kathleen, Alain, de conclusion de cette table ronde et sur le sujet, bien sûr, qui est le nôtre. Kathleen.
Alors je vais faire la conclusion sur le mode pessimiste et je laisserai Alain faire la conclusion sur le mode optimiste.
Très bien.
Donc je veux juste ajouter qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que le problème est d'une ampleur énorme et qu'il nécessitera en particulier très probablement des transferts financiers très importants de la part des pays développés vers les pays en développement. C'est un peu ce que vous vouliez dire, je pense. Transfert technologique, mais aussi transfert financier. Sinon, ça ne marchera pas. C'est impossible que si ces pays poursuivent le même mode de développement que nous, c'est impossible qu'on s'en sorte. Et l'aspect pessimiste, en effet, c'est sommes-nous prêts à effectuer ces transferts financiers ? Regardons le niveau de l'aide au développement actuel. Bon, je pense que la réponse est toute trouvée. Donc pour moi, il faut que nous soyons conscients de ce problème majeur.
Merci. Voilà. Alain, pour le mot de la fin, vraiment très brièvement.
Oui, je vais être plus optimiste quand même. C'est vrai que non, quand j'écoute les débats, quand j'écoute la nature des questions, si on fait un petit retour et qu'on se met dans le même amphi 10 ans avant, évidemment, les questions auraient été très, 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 très difficiles. Donc, on est quand même dans un processus qui fait qu'aujourd'hui, On sait tous collectivement que la gouvernance environnementale ne peut pas être détachée d'une gouvernance économique, elle ne peut pas être détachée des impacts sociaux de ces différentes gouvernances-là, et qu'on a besoin d'avoir une vision équilibrée de notre futur. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Merci à vous tous. Je crois qu'on peut applaudir nos intervenants.